Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 22 décembre 2020. Bonjour ou bienvenue. Crise en Centrafrique, Moscou a démenti hier tout envoi de troupes sur le terrain. Nous respectons toutes les exigences des résolutions de l'ONU, a assuré Mikhaïl Bogdanov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Le porte-parole du gouvernement centrafricain Ange-Maxime Kazaghi avait pourtant déclaré à l'AFP que la Russie a envoyé plusieurs centaines d'hommes, des forces régulières et des équipements lourds, sans préciser leur nombre exact ni la date de leur arrivée. Le Rwanda a pour sa part reconnu avoir envoyé des troupes dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale avec Bangui. La France, elle, a réaffirmé la nécessité de respecter l'ordre constitutionnel et de favoriser la tenue d'élections pacifiques, transparentes et crédibles. Le dialogue a repris lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre le pouvoir ivoirien et l'opposition en vue des législatives. Les discussions portent notamment sur la réforme de la commission électorale et la libération des hommes politiques écroués, alors que les violences liées à la présidentielle du 31 octobre ont fait 85 morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre. Au Mali voisin, les avocats de Boubacar Keïta, l'un des deux fils de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un putsch le 18 août, ont dénoncé lundi la séquestration dont il a fait l'objet depuis 4 mois. Boubacar Keïta a été totalement isolé dans la maison familiale à la suite du coup d'État, affirment les avocats Djeneba Diop et Bakary Semega dans un courrier adressé à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, une instance chargée de rendre des avis aux autorités. Sikarim Keïta, autre fils de l'ex-président et ancien député influent, a pu trouver refuge à l'étranger. Son très discret frère cadet, Boubacar, se trouvait quant à lui dans la villa familiale au moment du putsch et n'a plus été vu en public depuis. En Tunisie, le ministre de l'Environnement ainsi que plusieurs cadres de ce ministère et des douanes tunisiennes ont été placés en détention préventive dans le cadre d'une affaire de déchets importés d'Italie. Au total, 23 personnes ont été interpellées selon la justice tunisienne, dont le ministre de l'Environnement, Mustapha Haroui, démis de ses fonctions depuis dimanche. Elles sont accusées, ces personnes, notamment de la formation d'une bande de malfaiteurs, falsification et usage de documents falsifiés et participation dans l'importation interdite de déchets dangereux. Covid-19, le gouvernement marocain a annoncé lundi un couvre-feu nocturne à l'échelle nationale et de nouvelles mesures restrictives à partir de demain mercredi et pour une durée de 3 semaines pour juguler la propagation de la pandémie de Covid-19. Les autorités marocaines ont décrété un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Les nouvelles mesures incluent aussi l'interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés, ainsi que la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h, détaille un communiqué de l'exécutif marocain relayé par l'agence de presse MAP. Ici aux États-Unis, le Congrès américain a approuvé lundi, très tard dans la nuit, un plan de soutien de 900 milliards de dollars pour aider les familles et les entreprises américaines durement touchées par la pandémie de coronavirus. L'approbation du plan par la Chambre des représentants puis par le Sénat ouvre donc la voie à la ratification de ce plan de soutien par le président américain Donald Trump. Et Joe Biden, le président élu, a reçu lundi une première dose du vaccin contre le COVID-19 de Pfizer, le président élu des États-Unis, qui s'est fait vacciner dans un hôpital de Newark, dans le Delaware, a exhorté les Américains à en faire de même dès qu'ils en auront la possibilité. Joe Biden a annoncé qu'il ferait de la lutte contre le coronavirus qui a tué plus de 315 000 personnes aux États-Unis sa priorité lorsqu'il entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, 143 kg d'or saisis au Mali en route pour la Guinée, attentat de Lockerbie. 32 ans après, un Libyen inculpé aux États-Unis, le ministre américain de la Justice, William Barr, contredit à nouveau le président Donald Trump sur une série d'actes judiciaires, dont le recours à un procureur indépendant pour enquêter sur les élections. Et Washington a décidé de priver de visa les responsables chinois soupçonnés de violation des droits humains. Des nouvelles à développer juste après la pause. Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington. À tout à l'heure. La suite de nos informations ce mardi 22 décembre 2020. Au Mali, la douane a saisi 143 kg d'or d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA. Les 88 lingots d'or ont été saisis dans un véhicule à la frontière entre le Mali et la Guinée. Les 143 kg ont été ramenés à Bamako et une enquête a été ouverte. Écoutez les explications du lieutenant-colonel Amadou Sanogo, chef du bureau des enquêtes à la douane malienne à Bamako.
Nous avons d'abord constaté une fréquence de voyage du dit véhicule sur l'axe Kouré-Malé-Mali. Bon, en plus, l'heure de sortie du véhicule, qui était estimée à 5 heures du matin, ont constitué des indices pour les agents pour créer la suspicion. Donc, ce qui fait que les agents ont ciblé le dit véhicule et ont opéré cette importante saisie. Cette saisie porte sur 88 lingots d'or qui pèse 143 kg. En termes de valeur estimée, on peut l'estimer en fait à plus de 4 milliards. On a tout l'air de penser que c'est un réseau qui existe.
C'était le lieutenant-colonel Amadou Sanogo des douanes maliennes, propos recueillis par notre correspondant au Mali, Kassim Traoré. La justice américaine a annoncé lundi l'inculpation d'un troisième Libyen soupçonné d'avoir participé à l'attentat de Lockerbie le 21 décembre 1988 en Écosse. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Abu Aguila Mohamed Massoud, ancien membre des services de renseignement du Muammar Kadhafi, est soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe qui a explosé à bord du Boeing 747 de la compagnie américaine Pan Am au-dessus de Lockerbie. Enfin, cet homme responsable du meurtre d'Américains et de nombreux autres va répondre de ses crimes devant la justice. C'est féliciter le ministre de la Justice, Bill Barr, se disant optimiste sur une extradition aux États-Unis d'Abu Aguila Mohamed Massoud, détenu par les autorités en Libye. En 1991, les justices américaines et écossaises ont annoncé l'inculpation de deux agents de renseignement libyens, Abdelkader Ali Mohamed Al-Megrahi et Amin Khalifa Fima, pour leur participation à l'attentat. Ils ont été jugés en 2000 par un tribunal spécial écossais. L'année suivante, Fima a été acquitté et Megrahi reconnu coupable de meurtre, condamné à la prison à vie avant de voir sa peine être commuée en 27 ans de prison minimum. Il a été libéré en 2009 pour raisons médicales et est mort 3 ans plus tard dans son pays. L'attentat de Lockerbie a tué les 259 passagers et membres d'équipage, dont 190 ressortissants américains, et fait 11 morts au sol. Le régime de Muammar Kadhafi a reconnu sa responsabilité dans cet attentat et payé 2,7 milliards de dollars de dédommagement aux familles des victimes.
Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, sur le point de quitter le gouvernement, a une nouvelle fois contredit le président Donald Trump hier. Il a estimé que Moscou était derrière la gigantesque cyberattaque qui a visé les États-Unis. Eric Manirakiza.
Avec les informations dont je dispose, je rejoins l'analyse du secrétaire d'État Mike Pompeo. Il apparaît certainement que ce sont les Russes, a déclaré Bill Barr lors d'une conférence de presse. Le président Trump avait minimisé samedi la portée de cette attaque, ainsi que le rôle supposé de la Russie. Barr s'était attiré les foudres du président Trump pour n'avoir pas dénoncé les fraudes électorales alléguées par la Maison-Blanche. « J'ai dit qu'il n'y avait pas eu assez de fraude pour affecter l'élection et je m'en tiens là », a dit le ministre en partance. « Je ne vois aucune raison à l'heure actuelle pour que les autorités fédérales saisissent des machines électorales », a ajouté M. Barr, à propos de cette mesure réclamée par des partisans de Donald Trump. M. Trump avait aussi fait part de sa grande déception à l'égard de son ministre de la Justice, regrettant que ce dernier n'ait pas révélé avant l'élection de novembre l'existence d'une enquête sur la situation fiscale du fils de Joe Biden, Hunter. Ces divergences sont apparues et ont changé hier. M. Barr a annoncé sa démission la semaine dernière et doit quitter le gouvernement de Donald Trump dans 24 heures.
Une nouvelle donne dans les relations entre Washington et Pékin. Désormais, tout responsable chinois soupçonné de violation des droits humains sera interdit d'entrer sur le territoire américain. Bagassi Koura.
Les nouvelles restrictions de visa concerneront tous les responsables du Parti communiste chinois impliqués dans de telles activités répressives, peu importe où ils se trouvent, a fait savoir dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, évoquant la répression des pratiques religieuses des minorités ethniques, des dissidents, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des syndicalistes, des militants de la société civile ou des manifestants pacifiques. Les membres de la famille de chaque responsable visé seront aussi privés de visa américain. Washington a déjà publié les restrictions de visa ces derniers mois contre les responsables ou étudiants chinois de manière souvent plus ciblée dans le cadre de son offensive contre la Chine, érigée en adversaire stratégique numéro un de la première puissance mondiale. Le département d'État américain a ainsi annulé les visas de plus d'un millier d'étudiants ou chercheurs chinois soupçonnés d'espionnage et interdit l'entrée aux États-Unis aux responsables chinois impliqués dans des violations des droits des musulmans ouïghours ou dans la répression à Hong Kong. Il a aussi limité drastiquement l'entrée des membres du Parti communiste chinois.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec John Lindon.
Le Cameroun et la France ont signé un accord portant rééchelonnement de la dette extérieure conformément à l'initiative prise par le G20 en vue d'appuyer les économies en développement et afin de renforcer la lutte contre la pandémie du COVID-19 et ses effets. La dette rééchelonnée vis-à-vis de la France est de 89,7 milliards de francs CFA et constitue une bouffée d'oxygène pour le Cameroun dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 qui a déstructuré l'économie, faisant chuter la croissance du Cameroun de 4,1% à moins 2,1% en 2020. Au Togo, un deal a finalement été conclu entre l'État et Olam pour la privatisation de la NSCT. Selon Financial Afrique, le groupe industriel singapourien Olam a déboursé une somme de 22,59 milliards de francs CFA pour le paiement de la cession de 51% des parts de la nouvelle société cotonnière du Togo. Les négociations avaient été entamées depuis plusieurs mois avec l'État togolais qui considère Olam comme un partenaire de renom dont l'expertise est reconnue dans plusieurs pays. Le Congrès américain a annoncé dimanche être parvenu à un accord pour maintenir à flot la première économie mondiale durement affectée par la pandémie de COVID-19. Le plan comprend notamment un chèque de $600 par adulte et par enfant pour les ménages les plus vulnérables, 25 milliards d'aides au logement et 100 milliards pour la réouverture des écoles et des crèches. Les démocrates ont également sécurisé une allocation chômage de $300 par semaine contre $600 lors de la première aide accordée donc aux Américains.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Basketball pour commencer, la chasse aux Los Angeles Lakers. Champion NBA s'ouvre ce soir. Après avoir perdu 1,4 milliard de dollars de revenus la saison passée, la NBA n'a pas attendu longtemps pour faire démarrer la saison régulière, réduite à 72 matchs. De grosses rencontres en vue pour ce début. Dès ce soir, premier des trois duels de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers, précédé de l'affiche entre Brooklyn et Golden State, pour les retrouvailles entre Kevin Durant et Stephen Curry. Mercredi, Milwaukee et son double MVP en titre Gianni Antetokounmpo débutent leur saison chez les ambitieux Celtics de Jason Tatum. Utah et son duo Rudy Gobert-Donovan Mitchell défient Portland et Damien Lillard. L'épilogue a été fixé au plus tard au 22 juillet, soit à la veille du début des Jeux olympiques de Tokyo. Sur le continent, la troisième journée des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans s'est jouée hier. Dans la zone Afrique du Nord, encore battue par la Libye 0-1, l'Algérie est définitivement out et ne verra pas Mauritanie 2021. Dans l'autre match, le Maroc a fait un match nul face au pays hôte, la Tunisie 0-0. Les deux billets pour la phase finale se joueront donc entre le Maroc premier à l'issue de la troisième journée avec 4 points, suivi de la Libye 3 points avec un match en moins. La Tunisie a 2 points et l'Algérie a 1 point. Pour rappel, en raison du cas du coronavirus dans ses rangs, l'Égypte a déclaré forfait. Jeudi, le Maroc affronte la Libye et dimanche, la Tunisie joue la Libye.
Le Cameroun a publié une présélection de 33 joueurs retenus par le sélectionneur Martin Ntungumpile pour préparer son CHAN 2020 à domicile. Cette liste élargie a pour tête d'affiche Jacques Zoua, 29 ans, vainqueur de la CAN 2017 avec la sélection A, ancien attaquant du Gazélec Ajaccio, du FC Bâle d'Hambourg et du Kaiserslautern, qui s'est engagé avec le club de l'AS Futuro en 4e division pour pouvoir prendre part à la compétition. Placé dans le groupe A, le Cameroun affrontera le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe. La compétition débute le 16 janvier. La sanction est tombée pour Marcus Thuram. L'attaquant international français a été suspendu 6 matchs, dont 5 fermes, pour avoir craché sur un adversaire, a annoncé la Fédération allemande de football. Il devra s'acquitter d'une amende de 40 000 euros, a poursuivi la fédération. Elle viendra s'ajouter en addition de l'amende de 150 000 euros déjà infligée par son club aux Français qui s'est excusé. Le joueur a craché sur un adversaire lors d'un match de Bundesliga avec son club du Borussia Mönchengladbach contre Hoffenheim samedi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. La tension monte en Centrafrique à quelques jours de la présidentielle du 27 décembre. L'opposition demande le report de ce scrutin, alors que le pouvoir parle de tentative de coup d'État avec les récents combats aux alentours de Bangui. Le point à Bangui avec Freeman Sipila.
Depuis dimanche matin, l'instabilité sécuritaire a pris une autre tournure avec des renforts déployés par Moscou et Kigali. La présence de ces troupes étrangères aux côtés des forces armées centrafricaines a permis la reprise aux groupes armés, le contrôle de la ville de Mbaïki, située à une centaines de kilomètres au sud de Bangui. Le dispositif militaire est beaucoup plus renforcé, non loin de Bossambilé, à 152 kilomètres dans le nord-ouest de la capitale. Des combats ont été signalés dans cette zone tenue depuis 72 heures par les rebelles. Cette reprise des hostilités a suscité de nombreuses réactions à Bangui. Des milliers de personnes ont marché ce lundi pour dénoncer cette nouvelle crise en gestation.
Le jour où ce pays a connu son indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne passe que des jours après les jours dans les situations désastreuses. Parlons des crises multiformes qui ont secoué, qui ont déchiré le tissu socio-économique de ce pays. Et au jour d'aujourd'hui, tout centrafricain, tout peuple centrafricain n'aspire qu'à la paix, n'aspire qu'à la paix.
Réaction également des victimes de la crise sécuritaire déclenchée en 2013 en Centrafrique. Nanette Yandoka, présidente de l'Association nationale des femmes victimes des violences sexuelles.
Nous sommes des victimes de violences sexuelles. On demande au groupe de rebelles et surtout celui qui était le président avant, qui est maintenant le chef de rebelles, M. Bozizela, d'arrêter. Nous avons beaucoup souffert. On n'a plus besoin de rébellion dans notre pays.
La jeunesse n'est pas aussi restée en marge de ces réactions. Trop c'est trop, ça l'a Pamela Derome, présidente de la jeunesse centrafricaine.
Pour nous, aujourd'hui, il n'est pas question qu'on puisse revivre les situations douloureuses que nous avons eues à traverser et que nous sommes en train de vouloir sortir de là. Et donc, nous pensons qu'il est inadmissible de revenir encore dans cette situation. C'est pour cela que nous avons demandé et exigé d'ailleurs au gouvernement centrafricain de tout faire, de tout mettre en œuvre, de sécuriser la population centrafricaine, la jeunesse centrafricaine.
Sur le terrain, la campagne électorale est au point mort. Les candidats de la CO 2020 ont suspendu leur participation aux élections et exigent une concertation politique. Nicolas Tiangai, candidat à la présidentielle et porte-parole de la CO 2020, la coalition de l'opposition.
Les candidats, aussi bien à l'élection présidentielle qu'aux élections législatives, ne peuvent pas circuler librement pour faire campagne et leur vie étant menacée, il est évident que dans ces conditions-là, on ne peut pas aller faire campagne. Et c'est la raison pour laquelle la COD 2020, en toute responsabilité, a décidé de suspendre la campagne jusqu'à ce que la paix soit retrouvée, que les Centrafricains se mettent ensemble dans le cadre d'une concertation nationale pour discuter des conditions d'apaisement qui devaient permettre aux Centrafricains de choisir librement leurs dirigeants.
Les autorités centrafricaines et une partie de la communauté internationale se veulent déterminées. Toutes appellent au respect de la date du 27 décembre 2020 pour le premier tour des élections présidentielles présidentielles et législatives. Un pari visiblement compliqué à 6 jours de ces scrutins. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Les autorités camerounaises font état de l'arrivée de centaines de Centrafricains fuyant une recrudescence de la violence dans leur pays. De Garoua à Boulaye, à la frontière centrafricaine, reportage de Moki Edwin Kinzeka, récit Yakuba Ouedraogo.
Les habitants de Garoua-Boulaye, dans l'est du Cameroun, disent avoir noté un afflux inhabituel de ressortissants centrafricains ces derniers jours. Le gouverneur de cette région frontalière, Grégoire Mvongo, parle d'un millier de réfugiés accueillis depuis vendredi.
Je suis venu à Garoua-Boulaye un dimanche avec tout le staff régional de sécurité. Et ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que la situation sécuritaire se dégrade rapidement côté centrafricain. Et donc, vous avez le nombre de réfugiés qui augmente sensiblement de jour en jour. Vous avez de hautes personnalités centrafricaines qui sont venues ici pour s'installer pour des raisons sécuritaires. Vous avez du matériel qui vient de travaux publics notamment, qui vient de Centrafrique également pour être réinstallé ici. Et tous les problèmes sécuritaires qui vont avec.
L'ingénieur agronome Jean-Paul Nambobona, âgé de 32 ans, vient d'arriver à Garoua-Boulaye.
J'ai parcouru une très longue distance de Bangui pour Garoua-Boulaye avant de trouver un véhicule. En marchant, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui fuient aussi comme moi et j'appelle à ce président François Bozizé s'il y a un problème. Nous, les Centrafricains, nous avons traversé des moments très difficiles. Nous avons souffert pendant un très long moment. Et tout ce que nous voulons en ce moment précis, c'est la paix et rien que la paix.
Samedi, le gouvernement centrafricain a accusé l'ancien président François Bozizé d'avoir mobilisé des groupes armés qui menacent de marcher sur Bangui. Bangui a fait un état de la dispersion par les troupes onusiennes de partisans armés de l'ancien chef d'État dans les alentours de Bangui. Bozizé, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée, a démenti ces accusations. La coalition de l'opposition dont il fait partie a demandé dimanche le report des élections. Celles-ci se tiendront comme prévu, a assuré le gouvernement. Dans un hôtel de Garoua-Boulaye, une quinzaine de réfugiés centrafricains écoutent la radio nationale de leur pays. Sur les zones, Rigobert Ngaïso, leader autoproclamé des jeunes, appelle à la paix.
Mes chers frères, jeunesse de Centrafrique, l'heure est grave. Le moment est grave. C'est pourquoi je vous exhorte à recréer le sens du patriotisme pour garantir la stabilité et la prospérité de notre nation.
Ange-Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement centrafricain, a confirmé lundi l'arrivée de centaines de soldats russes et rwandais dans son pays. Le Rwanda a fait savoir dimanche avoir agi en réponse à la menace que font peser sur ses soldats faisant partie des casques bleus. La Russie fournit à la RCA des armes et des conseillers militaires. Le pays a sombré dans le chaos en 2013 lorsque le groupe rebelle Seleka a renversé Bozizé, l'accusant d'avoir violé les accords de paix. L'ancien président jouit d'un important soutien au sein de l'armée et aussi de son groupe ethnique, les Gbaya, l'un des plus importants du pays. Depuis lors, près d'un million de Centrafricains se sont réfugiés au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et au Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Gabon, l'opposition suspecte le projet de révision de la Constitution de favoriser une succession dynastique des Bongo. La réforme prévoit qu'en cas de vacance du pouvoir, que la fonction de président soit assurée par un collège composé du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Défense. La polémique intervient dans un contexte de doute soulevé par la société civile sur la capacité du président de la République, affaibli par un AVC depuis 2 ans, à assumer les charges liées à l'exercice du pouvoir. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiang-Nzé.
Les voix se font entendre pour s'opposer à ce projet de révision constitutionnelle.
L'heure est grave. Je dis bien l'heure est grave.
Laure Lekanga est une activiste membre du mouvement Touche pas à ma constitution.
Si Ali Bongo n'est plus en mesure de mener à bien la destinée de notre pays, quelqu'un d'autre peut le faire. Un autre Gabonais, en dehors de la famille Bongo.
Déjà soumise à l'examen des parlementaires, la nouvelle réforme constitutionnelle n'est pas acceptée par de nombreux citoyens. Isidore Mambondou est un agent municipal.
En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a trois autres personnalités qui devraient assurer cette vacance du pouvoir dès lors qu'il existe un président du Sénat, tel que la constitution actuelle le prévoit.
Un référendum aurait suffi pour trancher ce débat sur la succession. C'est l'avis de Donatien Mba, militant du Rassemblement pour le Gabon, de l'opposition.
Si ce n'est pas un référendum, on aurait peut-être compris que les Gabonais veulent qu'on revise l'article 13. Mais le faire, comme ils sont en train de le faire là, ce n'est pas la majorité des Gabonais qui l'ont demandé. C'est une portion de personnes qui décident de vouloir conserver toujours leurs acquis.
Les soutiens du président appellent de leur côté à dépersonnaliser le projet de réforme constitutionnelle. Stevie Essima, membre de l'ONG Tendance à venir.
Ce n'est pas une question d'Ali Bongo, c'est une question de continuité de l'État. Même d'ici 10, 15, 20 ans, nous pouvons nous trouver devant une impasse qui nous amène à interroger la fiabilité de notre constitution sur la continuité de l'État. Le président de la République a voulu marquer de son empreinte cette question en la mettant sur la place publique, quand bien même il est le premier concerné. C'est là encore un acte souverain de ce qu'Ali Bongo Ondimba est un homme d'État et non un homme de pouvoir.
Combler le vide juridique au sommet de l'État en cas d'indisponibilité du chef de l'État ne règle pour autant pas tous les problèmes, selon Jonathan Totomgom, porte-parole de Démocratie Nouvelle, parti allié au pouvoir.
Je pense que le vice-président, s'il est nommé, aurait pu entrer dans ce collège. Auquel cas, si ce poste n'est plus utile, qu'on le supprime au cours de cette modification de la Constitution. Il y a quand même des faiblesses politiques à ce niveau. Que devient le Premier ministre face à son ministre de la Défense qui entre dans ce collège, qui doit assumer l'intérim ou la vacance de pouvoir?
Le législateur gabonais dispose de quelques jours avant les vacances parlementaires de cette fin du mois pour clarifier les non-dits d'un projet de constitution qui divise l'opinion publique. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Pandémie de COVID-19, alors que les États-Unis lancent leur deuxième vaccin, la Grande-Bretagne instaure des mesures draconiennes de confinement pour lutter contre une mutation extrêmement contagieuse du nouveau coronavirus. Reportage de Michel Quinn, récit Gabi Dorsil.
C'est cette semaine que le deuxième vaccin contre le COVID-19, fabriqué par la compagnie américaine Moderna, sera distribué à travers le pays. Cette bonne nouvelle intervient alors que l'Amérique enregistre des chiffres records d'infections avec actuellement 113 000 malades hospitalisés. Selon les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, 6 personnes ont connu de sévères réactions après avoir reçu le vaccin anti-COVID-19 de la compagnie Pfizer. Les autorités encouragent tout de même le public à se faire vacciner dès que possible. L'amiral Brett Giroir, sous-secrétaire à la santé.
Cela est largement recommandé pour tout le monde car nous savons qu'il est efficace à 95% jusqu'à 100% pour prévenir les cas graves. C'est ainsi que nous mettrons fin à la pandémie en faisant vacciner 70% ou 80% des Américains.
La situation a empiré en Grande-Bretagne où une mutation plus contagieuse du COVID-19 a amené les dirigeants à instituer de nouvelles restrictions. Dans la foulée, la France, l'Allemagne et d'autres pays européens ont fermé leurs frontières aux voyageurs britanniques. Ici aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, les autorités soulignent que les vaccins seront efficaces contre la nouvelle souche qui n'est pas nécessairement plus mortelle. L'amiral Brett Giroir.
Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque raison de s'alarmer. Nous continuons la surveillance.
Certaines régions des États-Unis, comme le Midwest et les plaines du Nord, sont parvenues à maîtriser d'importants foyers de COVID-19. Dans le même temps, la situation a empiré dans le Sud profond, certaines parties de l'Est et la Californie. Cette situation a amené la compagnie Apple à fermer temporairement tous ses points de vente en Californie, bien qu'on soit à quelques jours de Noël, période des grandes ventes. Une fois de plus, l'amiral Brett Giroir.
Nous savons ce qu'il faut faire. Et si les Américains le font, nous pouvons aplanir la courbe et sauver littéralement des milliers de vies si nous faisons ces choses avant de déployer les vaccins.
Pour le sous-secrétaire à la santé, la pandémie n'est pas éternelle, mais les gens doivent se mobiliser et s'unir pour traverser ce qui pourrait être un sombre hiver.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.